France Inter. .fr.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Enlever la kippa, se cacher un petit peu en attendant des jours meilleurs pour les Juifs de Marseille. Quel effet ça a fait d'entendre cela en 2016 dans la bouche d'un responsable religieux, en l'occurrence le président du consistoire de Marseille ?
J'ai été surprise, pour le moins, et ça n'est sûrement pas le conseil que j'aurais donné à titre personnel. Après que le président du consistoire de Marseille cherche à protéger les siens, ça part forcément d'une bonne intention, mais ça n'est pas ce qu'il faut envoyer comme message, évidemment, et sûrement pas en ce moment. La protection, elle doit venir de l'État, des pouvoirs publics, et c'est ce que nous assurons. Et tout est mis en œuvre aujourd'hui pour faire en sorte que l'auteur de ces actes soit puni, sanctionné. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à Marseille même, au mois de décembre, il y avait eu un précédent acte antisémite. Mmh. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Et que l'auteur de cet acte-là est écopé de 2 ans et demi de prison. Donc voilà, il faut que chacun se sente rassuré sur le fait que quand une agression comme celle-là se déroule, les forces de l'ordre sont là pour que la sanction puisse tomber derrière.
Rassurez, vous pensez que les Juifs n'ont pas de raison d'avoir peur? L'enseignant agressé a cru qu'il allait se faire décapiter à la machette. Vous avez entendu ce témoignage?
Oui, bien sûr. L'enseignant était très ému, en effet, et surtout terrorisé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il a des raisons de l'être. Le jeune homme, ça a été suffisamment dit, fait partie de ces personnes qui se sont radicalisées toutes seules, donc c'est particulièrement compliqué, c'est dire la complexité de ce sujet, c'est-à-dire que ça n'est pas en fréquentant un lieu de culte ou en fréquentant de mauvaises personnes dans son entourage, c'est simplement devant un écran, un site internet que ce jeune homme qui était sans histoire jusqu'à présent est tombé dans cette folie-là. Et donc ça dit l'importance, comme le fait Bernard Cazeneuve, comme nous l'avons voulu avec la loi renseignement, de mieux appréhender ceux qui sur internet tombent dans ces dérives.
En attendant, il faut augmenter la protection aux abords des écoles. Est-ce que l'État fait ce qu'il faut pour protéger ceux qui sont menacés ?
Bien sûr que les écoles doivent être protégées, notamment parce qu'elles ont fait l'objet d'une menace très nette. Je vous rappelle un document de Daesh qui a circulé il y a quelques mois, qui a d'ailleurs provoqué beaucoup d'émotions dans les équipes enseignantes, et on le comprend. Et donc l'école est protégée aujourd'hui. Avec le ministère de l'Intérieur, nous avons beaucoup travaillé, notamment pour faire en sorte que les équipes dans les établissements scolaires sachent comment agir si d'aventure un malheur se produisait. C'est pour ça que des exercices à la fois d'évacuation, de confinement ont été réalisés à chaque niveau, d'ailleurs à l'école primaire comme dans le second degré, pour que chacun connaisse son rôle, sa place, et que surtout les relations avec la préfecture, les services de police soient le plus fluides possible pour que les avertissements, les alertes puissent remonter rapidement. Enfin, bien sûr, des patrouilles de police passent régulièrement devant les établissements scolaires.
Après les attaques de janvier, il y a un an, vous aviez annoncé une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, 11 mesures prioritaires à la maîtrise du français, lutte contre le décrochage, etc. Et un an après, finalement, pas grand-chose de concret. La réserve citoyenne, elle, est bien en place, mais comment se fait-il que les 5000 et quelques volontaires soient aussi peu sollicités dans les écoles et dans les classes ?
Alors d'abord, pardonnez-moi, mais je ne peux pas laisser votre première phrase sans réponse. 11 mesures et pas grand-chose de concret.
Oui, c'est ce que disent la plupart des intervenants scolaires, le Figaro.
C'est ce que dit le Figaro, voilà. C'est ce que dit le Figaro, mais ce n'est pas la vérité. Donc on va reprendre maintenant à peu près objectivement la
réalité. Aussi des responsables syndicaux de l'éducation nationale.
Non, pas du tout. Donc qu'est-ce qui a été annoncé au lendemain des attentats de janvier ? Il a été annoncé d'abord une mobilisation, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, il y a eu au printemps dernier, tenez-vous bien, plus d'un millier de réunions publiques, c'est pas moi avec moi-même, c'est plus d'un millier de réunions publiques qui ont rassemblé 80 000 personnes. La communauté éducative, c'est-à-dire à la fois des enseignants, des parents d'élèves, des associations, des entreprises sur chaque territoire, pour se demander comment l'école peut mieux transmettre les valeurs de la République et comment chacun peut y contribuer, car les enseignants ne peuvent pas être seuls pour le faire. Première étape, donc, c'est réunions publiques, mobilisation. Deuxième étape, ce qui est ressorti de ces réunions publiques, c'est on a un vrai travail sur la laïcité, parce que c'est le sujet sur lequel les enseignants nous disent être démunis devant leur classe lorsque on leur pose des questions sur la liberté d'expression, sur pourquoi est-ce qu'on nous impose de ne pas porter de signes religieux.
Combien d'enseignants ont été formés depuis ?
Eh bien, exactement ce que nous avions dit, c'est-à-dire que nous avons commencé au printemps par former ce qu'on appelle des formateurs. C'est comme ça que ça marche dans l'éducation nationale, 1500. Ces 1500 formateurs sillonnent aujourd'hui le pays dans les établissements scolaires pour former à leur tour. Et d'ores et déjà, des dizaines de milliers d'enseignants ont été formés par ces formateurs.
Donc, alors, nous parlons, il y a 1200 ou 1500 enseignants formés.
Non, formateurs. Derrière, plus des dizaines de milliers d'enseignants qui ont été formés par ces formateurs. Donc la phrase, non mais je vous en donne un exemple et je m'arrête là-dessus, c'est pour vous dire, quand je parle d'allégations mensongères, je sais de quoi je parle. Quand on dit seul un millier d'enseignants ont été formés sur la laïcité, c'est faux. C'est 1500 formateurs qui à leur tour forment des enseignants. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui ont été formés. Et d'ici la fin de l'année, ce sera 300 000 enseignants, c'est ça notre objectif, qui auront été formés. Alors, formés à quoi ? C'est plutôt ça le sujet. Parce que quand on dit formés à la laïcité, on ne va pas leur apprendre les grands textes, etc. Les enseignants sont capables d'y faire appel tout seuls. C'est plutôt formés finalement aux nouvelles problématiques, à ces élèves qui se retrouvent le soir devant leur écran internet, Facebook, etc., qui voient passer des vidéos, des argumentaires tout faits qui nourrissent la théorie du complot, et qui le lendemain, dans leur salle de classe, rétorquent à chaque fois que l'enseignant leur dit quelque chose, par un argumentaire tout fait auquel l'enseignant ne sait pas forcément comment répondre. Donc c'est formé finalement intellectuellement à venir répondre à ces argumentaires tout faits qui circulent sur Internet et auxquels les enseignants n'étaient peut-être pas familiarisés spontanément.
La réserve citoyenne.
Pourquoi
les réservistes ne sont-ils pas plus sollicités ?
La réserve citoyenne, même chose. Donc en janvier dernier, j'annonce cette belle idée parce que je vois bien qu'il y a une volonté citoyenne de venir s'impliquer davantage aux côtés des enseignants. En février, on ouvre les inscriptions. En mai, on adopte les textes, la circulaire qui permet de sécuriser juridiquement la réserve citoyenne, de créer partout sur le territoire, dans les académies, des référents qui vont pouvoir mettre en lien les établissements et les réservistes citoyens. Et à l'été, on est capable de dire il y a 5000 personnes, plus de 5000 personnes qui se sont inscrites à la réserve citoyenne. Donc, vous comprenez bien, dans le fonctionnement de l'éducation nationale, que les choses ne peuvent commencer qu'à la rentrée. Elles ne vont pas commencer pendant le mois d'août. Donc, à la rentrée 2015, qu'est-ce qui se passe ? Oui, la rentrée, les enseignants sont un peu préoccupés par leur rentrée, c'est pas tout de suite qu'ils vont faire appel à des réservistes. Les attentats de novembre, et notamment à Paris, font que l'école se referme un peu sur elle-même, par souci de protection, on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est normal. Et c'est maintenant que la réserve citoyenne entre dans les faits, et oui, il y a des réservistes qui interviennent. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que tous les 5000 réservistes sont déjà intervenus ? Non, parce que les réservistes, de toute façon, n'interviennent que sur sollicitation des enseignants. On ne va pas imposer à un enseignant d'accueillir un réserviste dans sa classe s'il n'en éprouve pas le besoin. Donc vraiment, il faut être un peu sérieux quand on juge de ce dispositif et du fonctionnement de l'école.
Encore une question avant.
Mais bien sûr, pour simplement compléter mon propos, moi je souhaite que les choses marchent et je prends les critiques et je fais en sorte que ça s'améliore. Donc par exemple, s'agissant de la réserve citoyenne, nous développons l'information qui est envoyée aux enseignants pour rendre plus attrayante pour eux le recours à cette réserve citoyenne. Et je peux vous dire, je suis persuadée que dans quelques années, ça paraîtra une évidence que de faire appel à cette réserve citoyenne. Mais il faut le temps que ça s'installe.
On va revenir sur les questions d'éducation dans quelques minutes avec les auditeurs d'Inter qui nous appellent. Najat Vallaud-Belkacem, encore une question avant la revue de presse. Elle sert à quoi, Christiane Taubira, au gouvernement ?
Les ministres de la Justice, garde des Sceaux.
Oui, mais si quand il y a modification législative dans son secteur, c'est le Premier ministre qui s'y colle, à quoi elle sert ?
Écoutez, c'est elle qui portera la partie du texte qui porte sur la procédure pénale.
Simplement, ah oui, ça sera découpé en tranches.
Non, mais simplement, c'est un sujet tellement important. On ne fait pas de révision constitutionnelle tous les quatre matins. Donc, que ce sujet puisse être présenté au Parlement par le Premier ministre lui-même, ça me paraît bien naturel.
Naturel. C'est une situation naturelle qui ne vous choque en aucune façon d'avoir un ministre chargé d'un secteur qui soit à ce point, qui manifeste son désaccord sur une disposition aussi importante.
Qui manifeste son désaccord et qui en même temps dit sa loyauté au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement. Donc moi, c'est ce que je retiens. Je retiens cette formule de Christiane qui, comme souvent, a trouvé les bons mots. La parole première est celle du président de la République, la parole dernière est celle du président de la République.
Najat Vallaud-Belkacem, invitée de France Inter ce matin, ministre de l'Éducation, on vous retrouve tout à l'heure.